Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 11 de la saison 3. J'aime beaucoup vous proposer des épisodes sur l'adoption. Pourquoi ? Parce que je crois que depuis que je suis toute petite, j'entends que c'est un parcours du combattant. Donc, dans mon imaginaire, c'est un peu une chimère. Alors, j'ai un peu l'impression de vivre un happy end, comme à chacun de mes enregistrements, me direz-vous. Mais ceux-là ont une saveur particulière, celle de l'exploit. Alors qu'en vrai, c'est un réel accès à la parentalité. Il peut être choisi, ou être une solution de repli, mais c'en est un. En revanche, ce qui ne diffère pas de mon imagination, c'est la longueur et la persévérance qu'il faut inoculer dans ces parcours. Ajoutez à cela nos compositions familiales atypiques, comme aiment à le souligner certains de ses services, et vous obtenez un savoureux cocktail de doutes, de stress et d'inquiétudes. Alors voilà, je le redis, chacun de ces épisodes a une saveur douce et savoureuse. Pour Nathan et JB, le vote du mariage pour tous qui a ouvert l'accès à l'adoption pour les couples de même sexe leur a donné le sésame de l'accès à la parentalité, celle qu'ils voulaient, celle qui était leur évidence. Ils ont vécu leur parcours sereinement, avec certitude, et surtout bien entouré par des professionnels compétents et non discriminants. L'arrivée dans leur famille de leur petit Gaël a été l'aboutissement de cette aventure qui aura duré 6 ans. Je vous laisse découvrir leur histoire, je vous promets que l'émotion est palpable. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nathan.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Je précise que tu es venu vers moi parce que tu souhaitais parler d'un sujet qui commence à avoir un petit peu le vent en poupe. J'ai quand même déjà enregistré 2 épisodes sur ce thème-là. Et je suis ravie de pouvoir en enregistrer un de plus parce que ça prouve bien qu'on commence à arriver à accéder à la parentalité par le biais de l'adoption de pupilles d'État, puisque c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me présenter ta famille ?
Alors, je m'appelle Nathan, j'ai 36 ans, je suis marié à Jean-Baptiste, que j'appelle JB, depuis 2014, et nous sommes les heureux papas de Gaël, un petit garçon que nous avons adopté et qui va bientôt avoir 3 ans.
Et donc ton petit bout, Gaël, il est arrivé, il avait quel âge chez vous ?
Il avait 2 mois et demi.
Oui, donc c'est tout petit et c'est hyper rassurant pour nous sur le fait qu'on puisse accéder à des enfants de nourrissons sur une adoption d'enfants pupilles d'État.
Tout à fait.
Ouais, c'est chouette. Est-ce que tu peux me raconter comment vous êtes rencontrés avec JB ?
Alors, on s'est rencontrés en 2008. À l'époque, j'étais encore étudiant. Lui, il avait 25 ans, il commençait tout juste sa carrière professionnelle. Et on s'est rencontrés lors d'une fête, enfin d'une soirée avec des amis, où chacun faisait sa soirée de son côté, et en fait on s'est retrouvés dans le même bar au même moment, Et voilà, on s'est rencontrés, on a sympathisé, et puis voilà.
D'accord. Et du coup, quand vous vous êtes rencontrés, donc vous avez assez rapidement avancé dans votre relation ou vous avez pris votre temps plutôt ?
On a plutôt pris notre temps parce que en plus ni l'un ni l'autre n'avait fait son coming out auprès de sa famille. Mmh. Et du coup, on a laissé mûrir un peu notre relation pendant à peu près un an avant de l'annoncer à nos familles respectives et puis d'emménager ensemble. On a emménagé ensemble au bout d'un an.
D'accord, ok. Et avant d'emménager ensemble, ce qui est déjà quand même un gros sujet, hein, soyons clairs, est-ce que vous aviez commencé à aborder l'idée de la parentalité ? Est-ce que c'est quelque chose auquel toi, tu avais déjà réfléchi avant ou est-ce que c'est venu plus tard ?
Alors, pas du tout. Clairement, j'avais la petite vingtaine, c'était pas du tout dans mes préoccupations du moment. Le projet de parentalité s'est vraiment construit avec JB. Et au fur et à mesure que notre relation avançait.
D'accord.
On n'en a jamais vraiment parlé au tout début. Quand on a commencé vraiment à en évoquer l'idée, en fait, c'est à peu près au moment où le projet de loi de mariage pour tous commençait un petit peu à se dessiner dans le programme du président de François Hollande. Mmh. Et c'est vraiment au moment de son élection en 2012 que on s'est dit, mais là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Ça faisait un petit moment qu'on était ensemble. On était toujours très, très heureux ensemble. Et on s'est dit, ben, vers quelle voie notre relation pourrait aller. Et la parentalité, en fait, s'est imposée d'elle-même.
D'accord. Alors que pourtant, quand même, sur ce projet de mariage pour tous, donc vous aviez, papa, le mariage qui était acquis, enfin, qui allait être acquis, potentiellement, très certainement l'adoption de l'enfant du conjoint si l'enfant était arrivé avant.
Ouais.
Mais par contre, il n'y avait même pas un espoir de voir avancer la GPA, et c'est d'ailleurs hélas toujours pas le cas pour vous au niveau de la nouvelle loi bioéthique. Est-ce que c'est quand même une option qui vous est apparue, est-ce que vous l'avez envisagée ?
Alors oui, on l'avait envisagée un peu avant, quand les programmes des candidats à l'élection présidentielle se sont déroulés, il y avait le programme de François Hollande qui disait qu'il voulait ouvrir le mariage à tous les couples et donc forcément l'adoption derrière. Mais nous, on s'était posé la question, est-ce que il n'y a pas un autre moyen de devenir parent ? On a pensé à la GPA, mais on a très très vite écarté l'idée, essentiellement pour des raisons financières. Parce que voilà, ça coûte quand même très très cher.
C'est un tel coup que c'est clair que, enfin, je pense que ça, cette méthode-là est fermée à beaucoup de couples.
C'est exactement ça. On n'a pas forcément les moyens de le faire. Et s'il y a des couples qui atteignent la parentalité par ce biais, tant mieux. Mais en tout cas pour nous, c'était pas envisageable d'un point de vue financier. Et puis il y avait tout ce côté législatif, administratif, qui nous paraissait assez insurmontable. C'est-à-dire un enfant qui naît dans un autre pays, ensuite ramené en France, le temps de faire les papiers transcrits en français, avant que les deux parents soient vraiment considérés comme des parents. Enfin, toutes ces étapes-là nous paraissaient assez compliquées. Mmh. Et quand le mariage pour tous a été voté et que l'adoption d'elle-même en découlait, on s'est dit que ça allait forcément être, entre guillemets, un peu plus facile d'un point de vue administratif et légal.
D'accord. Ce qui en soi était le projet, effectivement.
C'est ça. Et du coup, quand la loi est passée, on s'est tout de suite engouffré dans le truc où, on va se marier et puis on va lancer la procédure d'adoption de manière naturelle juste après notre mariage.
D'accord. Donc pour vous, c'était... Je sais que l'adoption de pupille d'État a été évoquée dans le projet de loi, mais après, entre ce qui a été validé, on va dire, parce que ça a quand même été validé.
Oui.
Et ce qui va être mis en place, clairement, il y a quand même, on sait que ça prend du temps. Mmh. Vous aviez pas du tout de doute. En fait, vous êtes dit, on se lance et on verra quoi.
C'est ça. On s'est dit que, étant donné que la loi du mariage pour tous mettait tous les couples sur un pied d'égalité, c'était la volonté première de cette loi, on s'est dit, va tenter notre chance comme n'importe quel couple va tenter sa chance. On s'est pas posé de questions. On s'est dit, on se marie, on décide d'adopter un enfant, on y va. Voilà.
D'accord. Et du coup, vous êtes mariés en quelle année ?
On s'est mariés en 2014.
D'accord.
En août 2014, et on a lancé les démarches d'adoption quelques mois après.
D'accord, ok. Et alors, bon, raconte-moi quand même votre mariage. Vous vous êtes mariés, du coup, alors évidemment, je me doute que vous êtes mariés par amour, mais c'était vraiment dans le cadre de ce projet-là.
La volonté première, c'était parce qu'on voulait s'unir tous les deux et unir nos familles par le biais du mariage. Mais c'est vrai que inconsciemment, il y avait ce désir d'enfant qui commençait à grandir et que le mariage allait pouvoir légitimer.
Ouais.
Du coup, voilà, l'idée première, c'était nous, et puis l'idée seconde, c'était de devenir parents.
D'accord, ok. Et alors du coup, est-ce que vous aviez parlé à vos proches de votre envie de devenir parent ou pas du tout ?
On l'avait un peu évoqué avant notre mariage, en se disant que un jour on serait parents, on savait pas comment, par quel biais, mais qu'un jour on arriverait. On n'a jamais perdu l'espoir et l'idée que un jour on serait parents.
Ouais, pour vous, c'était une évidence.
C'était une évidence. Pour moi, surtout. Moi, je me suis toujours vu père. Je suis issu d'une famille nombreuse. Je me suis toujours vu papa. Pour JB, c'était un peu plus abstrait. C'était pas quelque chose auquel il avait pensé tout de suite. L'idée a fait son chemin au fur et à mesure de l'accomplissement de notre relation. Et puis, l'aboutissement du mariage a fait que voilà, il s'est senti prêt à passer le pas avec moi.
D'accord. Je peux te demander dans quelle région vous êtes ?
On est dans le département du Rhône.
D'accord, ok. Parce que tu sais, enfin, on sait que les procédures d'adoption de pupilles d'État, elles sont spécifiques à chaque département.
Oui.
Et que les avancées aussi sont spécifiques à chaque département. C'est pour
exactement
ça que je te posais la question.
Ouais. Et le département du Rhône, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais est un des départements les plus ouverts aux futures familles homoparentales, en tout cas.
D'accord, ok. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Alors évidemment, ça va peut-être inciter certains à déménager.
Après, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'enfants disponibles à l'adoption.
Tout à fait. Mais effectivement, ça veut dire quand même que les chances sont quand même présentes.
Ouais, en tout cas, les conseils de famille départementaux s'ouvrent de plus en plus. Et à l'époque de l'adoption de Gaëlle, le Rhône faisait partie des départements les plus ouverts. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit à travers tous les différents rendez-vous. C'est ce qu'on nous avait précisé.
D'accord, ok. Et alors, du coup, avec JB, vous vous lancez. Enfin, qui fait les démarches ? Comment vous faites ? Enfin, quelles démarches vous faites pour pouvoir vous lancer dans le process d'adoption ? Est-ce que c'est évident ou est-ce que vous avez dû fouiller, trouver un petit peu, un chemin chaotique, on va dire, mais comment ça se fait ? Est-ce que c'est facile ?
Alors, les informations pour se lancer dans les démarches d'adoption, elles sont relativement faciles à trouver hein, sur Internet. Il suffit d'aller sur le site du conseil départemental. Enfin, faut déjà savoir que c'est le conseil départemental, mais une fois qu'on a trouvé l'information, c'est assez facile de trouver. Hein. Il suffit d'aller sur le site du conseil départemental, de cliquer, je schématise, hein, mais cliquer service adoption, et puis là, il y a tout un fascicule qui montre un petit peu les différentes étapes et ce qu'il faut faire pour pouvoir commencer la démarche. Donc nous, on a regardé ça sur le site du conseil départemental. Et puis, la première étape, en fait, c'est de s'inscrire à une réunion d'information sur les réalités de l'adoption en France.
Ok.
Donc ça, on s'est marié en août, on a dû chercher en septembre et on a eu la première réunion au mois d'octobre.
Il y en a fréquemment des réunions ?
Normalement, il y en a une par mois.
D'accord.
En tout cas, à l'époque, je me souviens que c'était, il y en avait au moins une par mois.
D'accord.
Et c'est sur inscription, donc on s'inscrit et puis on reçoit un mail qui nous dit ben vous êtes inscrit à telle session, tel jour, telle heure. Donc on se rend à cette première réunion d'information qui est très très informelle, c'est très froid.
D'accord.
Voilà, on se retrouve, on est à peu près une quarantaine dans une salle anonyme face à deux personnes qui travaillent au conseil départemental. Et donc des couples Alors c'est très bizarre parce que dès la première réunion d'information, en fait, on se regarde, on se jauge en se disant, donc on est tous candidats à l'adoption, on est tous dans la même démarche, on en est tous au début. Du coup, on se regarde en disant, bon, qui va être le premier?
Ouais, c'est ça, tu dois avoir une sorte d'effet de compétition, si c'est pas un esprit de compétition, évidemment, mais tu dois avoir un peu ce... Ouais. Ça doit être assez ambivalent, ouais.
C'est un peu ça, et on se regarde et on se juge inconsciemment, hein. Mais on juge un peu. Ah tiens, ce couple, il a l'air assez jeune. Ce couple-là, il est un peu plus âgé. Et il se trouve que nous, dans cette fameuse réunion d'octobre, on était le seul couple de garçons. Mmh. Il faut savoir qu'on était à un peu plus d'un an de promulgation de la loi, donc c'était encore tout nouveau.
Ouais, tout frais.
Et je pense qu'il y a eu pas mal de regards insistants de la part des autres couples présents, parce que on était deux gars et que c'était tout nouveau, et que nous on essayait de montrer que nous aussi on est dans le cadre de la loi, on s'est marié, on se lance dans la démarche d'adoption parce que on a ce désir d'enfant, et comme vous. Donc ouais. C'est assez perturbant.
Ça devait être assez perturbant, effectivement, surtout d'avoir, je pense que les regards, ils devaient être quand même relativement dans le jugement. Ça devait pas être simple.
Ouais, j'ose espérer que maintenant qu'on en est à plusieurs années après, il y a plus de couples d'hommes ou de couples de femmes qui se lancent là-dedans, et que maintenant les regards sont peut-être moins insistants. J'ose espérer ça, en tout cas.
Je pense que c'est le cas, parce que j'ai quand même un peu l'impression que les esprits s'ouvrent de plus en plus. En tout cas, ouais. j'ai envie de croire ça.
Ouais, ouais. Et voilà.
Et donc, alors, juste parce que j'ai jamais posé la question, en fait, sur les précédents enregistrements sur le sujet des adoptions de pupilles d'État, sur cette première réunion, il n'y a aucun filtre, en fait. Tu peux y accéder, enfin, tu peux y aller, t'as aucun critère à remplir.
Non.
Envie d'adopter.
Il y a aucun critère, c'est-à-dire que il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, après ces différentes réunions d'information, se rendent compte que finalement, ce projet-là, ça leur convient pas. Parce que, comme je disais, c'est très froid, c'est-à-dire que pendant ces réunions, ça va pas être très glamour, hein, mais ils nous assènent beaucoup de chiffres, de schémas, de statistiques sur la réalité de l'adoption en France, en disant voilà, il y a chaque année, il y a tant d'enfants qui sont déclarés adoptables, et il y a tant de postulants à l'adoption. Là, tu te rends compte que le ratio est extrêmement éloigné, donc tu te dis ça va pas être simple. Parce que voilà, pour te donner une idée, c'est à peu près une cinquantaine d'enfants dans le département déclarés à l'adoption sur l'année pour 2 à 3 000 postulants.
Oh là 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 là, oui, c'est fou.
C'est fou. Et puis des postulants, il y en a certains qui viennent d'arriver, et puis d'autres, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'ils sont en procédure. Donc voilà, ça donne une réalité de l'adoption qui, au départ, fait un peu peur. Mmh. Et tu ressors de ces différentes réunions, ok, ça va pas être simple.
Ouais, c'est clair. Et à ce moment-là, suite à ces réunions, on n'a pas encore parlé du tout d'agrément, mais est-ce que vous dites que potentiellement vous seriez capable de partir sur un pays étranger pour pouvoir adopter, ou c'est très clair que ce sera la France ?
Alors, il faut savoir que dans ces réunions, ils parlent aussi de l'adoption à l'étranger. Ils parlent de l'adoption nationale, mais aussi de l'adoption à l'étranger. Ils balayent un petit peu tout le spectre de l'adoption en France. Et donc, ils donnent plein de contacts des différentes associations d'agrément pour l'adoption à l'international, des numéros de téléphone, des adresses e-mail. Enfin, ils nous noient sous plein d'informations chiffrées. Et après, c'est un peu à nous de faire le tri là-dedans et d'aller voir. Et suite à ces différentes réunions, nous on s'est renseigné de savoir dans quel pays on pouvait adopter, que ce soit pour des couples hétéros ou des couples homo. Pour les couples homo, on se rend bien compte que l'adoption à l'international, elle est extrêmement fermée. Pour les couples hétéros aussi, hein, c'est-à-dire que maintenant il y a une politique de l'adoption qui est très très restreinte. Mmh. Et pour les couples homo, c'est encore pire. À l'époque, il y avait que deux pays qui l'ouvraient aux couples de même sexe. Il y avait le Brésil et l'Afrique du Sud.
D'accord.
Et peut-être.
Oui, donc c'était assez limité.
Ouais, peut-être le Mexique aussi, mais sans sans aucune certitude. Mais en tout cas, voilà, c'était très limité. D'ailleurs, depuis, le Brésil a complètement fermé l'adoption aux couples homo, hein, suite au changement de gouvernement. Donc, aujourd'hui, je sais pas où en est la réalité, mais je pense qu'il y a extrêmement peu de pays ouverts à l'adoption pour des couples d'hommes ou de femmes.
Ouais. Tu me parles vous étiez quoi, en 2015 dans le process, quand vous avez eu ces chiffres-là? Enfin, ces pays-là, enfin, ces annonces-là?
Fin 2014, donc je pense qu'il se basait sur des chiffres de 2013, à mon avis.
D'accord, ok.
Et du coup, cette adoption internationale, en fait, on l'a très vite écartée.
D'accord.
Parce qu'on s'est dit, ça va être encore plus compliqué de passer par une association pour l'international. On s'est dit, de toute façon, on n'allait pas avoir grande chance là-dedans, que ça allait engranger pas mal de frais aussi d'avocats.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'il faut savoir que l'adoption internationale, il y a tout un côté payant, tout ce qui est du côté du pays étranger, c'est quand même payant. Il y a des frais d'avocat, de traducteur, etc. Et donc on s'est dit, on va rester sur le territoire national. Nos meilleures chances, ça sera en France.
D'accord. C'est ce que eux vous disaient, ou ils ne mettaient aucun niveau en fait de facilité d'accès sur les différents types d'accès à la parentalité par le biais de l'adoption?
Bah, en fait, c'est pour être très honnête, les personnes qui animent ces réunions, elles sont dans une vraie réalité de chiffres et d'enfants adoptables. Donc, ils sont pas là en fait pour nous dire bienvenue, vous voulez adopter, tout va bien se passer. Non, c'est pas ça le discours. C'est que vous entrez dans une démarche qui va être compliquée. Vous allez avoir des hauts et des bas au niveau émotionnel et il faut vous y préparer. Donc du coup, ils sont sans filtre parce que ils veulent nous mettre tout de suite face à une réalité qui peut être très déconcertante.
Oui, tout à fait.
Et en fait, c'est déjà un premier tri dans les personnes qui viennent à ces réunions, où il y a des personnes qui sont là et se disent ben je suis peut-être pas encore prêt à me lancer là-dedans. Du coup, je vais me retirer et je vais laisser mûrir un peu tout ça avant d'y revenir. Ou il y a des gens peut-être qui se disent ben finalement l'adoption c'est pas pour moi. Et je pense que le fait d'être très cru et d'être trivial dans leurs propos et le fait d'assainir un peu la tête des gens avec des chiffres, des statistiques, c'est aussi une volonté de dire attention, ça va être compliqué.
Mmh. Et est-ce que tu as une idée du ratio de personnes qui se désengagent après les quelques premières réunions? Ils te le disent, hein?
Très honnêtement, non, je sais pas.
D'accord.
Ça, je sais pas.
Ils vous en parlent pas.
Non.
D'accord, ok. Et donc, du coup, à quel moment ils vous parlent de l'agrément? Est-ce que c'est une démarche qui est quasi automatique une fois que vous avez accédé à un certain nombre de réunions ou pas du tout?
Alors, nous, on a fait deux réunions fin 2014, une en octobre et une en décembre. Et suite à ces deux réunions, en fait, ils nous disent, bah voilà, si votre projet est toujours d'actualité, voilà les pièces à fournir pour constituer un dossier de demande d'agrément. Alors, je vais faire un parallèle avec un des épisodes, si tu me le permets,
un épisode
qui m'a beaucoup fait écho, parce que ça m'a fait écho à notre propre histoire, hein. C'est l'épisode de Marc et Jérôme qui ont adopté un enfant en France, et où ils disaient qu'ils avaient dû monter tout un dossier où ils avaient l'impression qu'ils allaient acheter un appartement. Parce qu'ils demandaient des fiches de paye, des déclarations de ressources. Ça faisait très schéma financier. Mm-hmm. Et moi, je vais apporter une nuance où, dans notre cas, à aucun moment, dans tout le processus d'adoption, il n'a été question de nos salaires et de notre niveau de vie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on nous a demandé de fournir une preuve comme quoi on gagnait suffisamment d'argent pour accueillir un enfant.
Et donc c'est là qu'on voit bien les différences entre les conseils départementaux et entre les tribunaux, parce que par la suite le tribunal effectivement passe par là pour juger l'adoption. C'est là qu'on voit vraiment que les dossiers sont propres à chaque département. Enfin, il n'y a pas une marche à suivre qui soit commune à l'entièreté de la France.
C'est exactement ça. Si je me souviens bien, Marc et Jérôme ont adopté dans les Bouches-du-Rhône.
C'est ça, exactement.
Et nous, c'était dans le Rhône. Et quand on a constitué notre dossier pour l'envoyer pour demander un agrément, je ne me souviens pas avoir dû fournir ne serait-ce que mon contrat de travail ou mes derniers bulletins de salaire ou ne serait-ce que ma fiche d'imposition à aucun moment. C'était des trucs très très administratifs.
D'accord.
Ça m'a beaucoup étonné dans l'épisode qui a été enregistré là-dessus où et c'est là où je te rejoins, tous les départements fonctionnent différemment en fait.
De façon assez autonome là-dessus.
C'est ça.
Et du coup, par contre, est-ce que ça vient après dans le processus, une fois que tu as ton agrément, par exemple, est-ce qu'à un moment donné, on va te demander de prouver que tu peux, on va dire, financièrement, accueillir un enfant ?
Le prouver, non.
D'accord.
Mais il le demande à un moment donné, de toute façon, il le demande. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Et du coup, quel est votre contrat ? Est-ce que vous êtes en CDD, en CDI ? Est-ce que vous êtes fonctionnaire ? À un moment donné, ça arrive dans la conversation, mais c'est pas le point essentiel. Mmh. Le point essentiel dans la démarche d'adoption, c'est pas le côté financier, c'est vraiment le côté humain. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est les questions qu'on a eues tout au long des entretiens avec les différents services sociaux. C'était alors vous, où est-ce que vous en êtes de votre projet d'adoption ? Qu'est-ce qui ferait de vous des parents différents des autres? Comment vous vous voyez en tant que parent? Quel est votre schéma parental auquel vous avez envie de vous accrocher? Voilà, c'est des choses vraiment très concrètes et vraiment au cœur du sujet. Le côté financier...
Oui, il se concentre vraiment sur votre perception de la parentalité et le pourquoi vous passez par ce process-là plutôt qu'un autre.
C'est ça, le côté financier est complètement balayé et mis au second plan. On l'évoque à un moment donné, mais c'est pas le cœur du sujet.
D'accord, ok. C'est presque... Je vais pas dire perturbant, mais c'est fou ces différences entre les départements.
Ouais. C'est assez dingue, ouais.
Et donc, du coup, on en était à vos deux rendez-vous. Et donc, là, tu me parles de ta demande, de votre demande d'agrément. Mmh. Vous l'obtenez relativement rapidement et facilement, cet agrément ?
Alors, entre l'envoi du dossier qu'on a dû faire début 2015 et le fameux sésame de l'agrément, il s'est écoulé à peu près un an.
D'accord. Ok, oui, c'est à peu près standard, hein, je crois.
Enfin, c'est à peu près ça, ouais. En fonction des départements, s'ils sont débordés ou pas. Voilà, en gros, on a envoyé notre dossier en février 2015, je crois, et on a reçu notre agrément en mars 2016.
D'accord. Et donc là, on en est quand même à près de 2 ans, un an et demi depuis le début de votre processus. Comment vous vivez cette attente-là, même si vous y êtes préparé ? Comment vous le percevez ? Est-ce que vous le vivez bien ? Est-ce que ça vous paraît long ?
Alors, pendant la première année, entre l'envoi du dossier et l'arrivée de l'agrément, l'année est jalonnée de rendez-vous avec les assistantes de services sociaux, les psychologues. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer, en fait. Tous les 2 mois, on a un rendez-vous pour parler de notre histoire, de notre démarche. Et donc là, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On reçoit l'agrément en 2016. Et après, pendant un an, il se passe plus rien.
D'accord.
Donc tous les rendez-vous ont été faits, les rapports ont été faits, l'avis a été donné, favorable, l'agrément est reçu, et là, il se passe rien. Donc on va gratter un petit peu du côté des forums, de personnes qui ont déjà adopté. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Moi, je vais donner un conseil, c'est que il faut jamais lâcher. C'est-à-dire que même s'il se passe rien, il faut continuer à envoyer des mails à l'assistante sociale qui suit notre dossier pour dire « Coucou, on est encore là, est-ce que vous avez du nouveau ?» Parce que c'est important de garder le lien. Mmh. Nous, pendant un an, en fait, on l'a pas fait parce que on savait pas. Et donc, au bout d'un an, on reçoit un mail des services sociaux qui nous disent « Voilà, il y a eu la réforme territoriale en 2016. » Donc là, c'est spécifique au Rhône. Nos services se sont scindés en deux. Il y a ce qui dépend du département et ce qui dépend de la métropole de Lyon. Mmh. Et donc, en fait, notre dossier, comme on habitait à Lyon, a été transféré à la métropole. Et du coup, c'est pas qu'il faut tout recommencer, mais c'est que, du coup, les compétences sont partagées. Et on reçoit donc un mail qui nous dit « Suite à la réforme territoriale, on a besoin de savoir où vous en êtes de votre parcours d'adoption. Et donc, on vous invite à une réunion d'information spécifique sur les pupilles de l'État. »
D'accord. Et en plus de ça, je suppose qu'il faut aussi se faire connaître, en fait, à ce moment-là.
Oui,
alors... Parce que c'est plus les mêmes têtes, en fait.
C'est ça. C'est que on a besoin de se montrer, parce qu'en plus, on a changé d'assistante sociale entre-temps. Donc, du coup, voilà, c'est de dire, coucou, c'est nous. On est toujours là, on a l'agrément depuis 2016, on est en 2017, il y a pas grand-chose qui s'est passé. Et donc, du coup, cette réunion d'information des pupilles, elle permet aux nouvelles personnes en charge des dossiers, de mettre des visages sur des noms ou des numéros de dossier.
Mmh.
Et pour le coup, cette réunion d'information donc qui intervient en juillet 2017, donc plus d'un an après la réception de notre agrément, qu'on a dû confirmer entre-temps. Hein, tous les ans, il faut confirmer son agrément.
Oui.
Cette réunion-là, elle est aux antipodes des premières réunions qu'on a eues.
C'est-à-dire ?
Alors, autant les premières réunions en 2014 étaient très froides, très jugeantes. Enfin, en tout cas, on l'a ressenti comme ça, très jugeante, où on est ressorti un peu décontenancé en se disant « Ouh là là, ça va être compliqué, machin ». Autant cette réunion d'information, là, on a été reçu par donc la chef de service d'adoption. On était, allez, 5 couples à cette réunion.
Mm-hmm.
Donc, c'était quelque chose de très convivial, on va dire.
Oui, tout à fait.
Et ça se passait dans des locaux qui étaient pensés pour recevoir des parents et des futurs parents. C'est-à-dire qu'il y avait des petites tables avec des petites chaises pour accueillir les enfants, il y avait des dessins au mur, il y avait des invitations à des réunions ou des apéros entre postulants à l'adoption, entre nouveaux adoptants et anciens. Enfin, c'était quelque chose de très convivial, de très limite festif. Et mm-hmm. du coup, ça met beaucoup plus à l'aise.
Mais clairement. Et puis en plus, ça te permet de prendre, enfin, de créer un réseau aussi.
C'est ça. Alors, nous, on s'en est pas saisi de ce réseau, on aurait pu, hein, mais je sais que ça se fait. Il y a des mercredis où des adoptants et des futurs adoptants se retrouvent et puis pour discuter un peu des difficultés de chacun, pour se rassurer aussi beaucoup.
Mmh.
Beaucoup, ça c'est beaucoup de réassurance. Et donc là, voilà, on nous fait part de encore de chiffres, bien évidemment, sur la réalité des adoptions de pupilles de l'État dans le département du Rhône. Et bon, les chiffres sont toujours les mêmes, hein. Le ratio
oui,
est toujours très très important. Oui. Mais on est ressorti de cette nouvelle réunion d'information, beaucoup plus fort, enfin, vachement plus serein.
D'accord. Vous aviez eu l'impression d'être entendu, en fait.
C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. On s'est dit, là, ça y est, on est en plein dedans, quoi.
Voilà. On sait qui. Enfin voilà. On a mis nos têtes sur notre dossier. On nous a entendu parler.
Voilà, et donc en fait,
qui s'est passé.
Voilà, en fait, c'est dans en cela que je dis qu'on passe par des hauts et des bas, c'est que pendant une année, il y a eu plein de trucs qui se sont passés, plein de rendez-vous avec les psychologues, les assistantes sociales, la visite à domicile, tout ça. Après, pendant un an, ben pas grand-chose. Cette réunion qui intervient en 2017, et après, on nous octroie donc une nouvelle assistante sociale qui reprend notre dossier début 2018.
Mm-hmm.
Et là, pareil, pendant un an, c'est des rendez-vous qui s'enchaînent pour reparler du projet d'adoption, pour reparler de notre démarche, pour reparler de notre conception de la parentalité. Et pendant un an, en fait, tous les 2-3 mois, on se retrouve à discuter avec l'assistante sociale et la psychologue de ce désir-là, de cette future parentalité qu'on espère. Et en fait, on voit pas l'année passer.
Oui, voilà. En fait, si je retiens bien, parce que c'est vrai que souvent ce qu'on entend dans les parcours d'adoption, c'est la longueur du process où tu te retrouves
ouais.
relativement seul. Là, finalement, c'est que votre première année où, bah, on vous a mal informé ou pas guidé, où vous avez eu cette notion de longueur, mais ensuite, vous avez toujours été, enfin, vous aviez des rendez-vous qui jalonnaient tout votre parcours.
C'est ça. C'est ça. On s'est toujours senti soutenu, accompagné, même dans les moments de doute extrême. Moi, je me souviens d'un épisode où ça a fait la une des journaux. Il y avait une chef de service adoption en région parisienne qui avait déclaré que les couples homosexuels étaient des couples atypiques et ne pouvaient prétendre qu'aux adoptions atypiques. Ça avait fait un tollé, ça avait été extrêmement jugeant, discriminant. Enfin, tout le monde est monté au créneau en disant c'est horrible de dire ça. Et nous, comme on était en plein process, ça nous a mais giflé d'une violence en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que cette personne
Mais en même temps, est-ce qu'elle évoquait pas une Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis dit mais en fait, elle évoque une réalité. C'est probablement ce qui se passe chez elle.
Eh ben. Du coup, comme ça nous a vraiment perturbés, à ce moment-là, on a demandé un espèce de rendez-vous en urgence avec notre assistante sociale parce que on avait besoin d'en parler à quelqu'un.
Mmh,
On lui a exposé tout ça, on lui a exposé aussi nos doutes, nos peurs. Et voilà, cette assistante sociale a été formidable et d'une intelligence folle où elle nous a dit, et c'est là qu'elle nous a dit, chaque département fonctionne différemment. Et c'est là qu'elle nous a dit que le département du Rhône était un des départements les plus ouverts parce que c'était pas leur politique. Pour eux, tous les dossiers de postulants à l'adoption étaient sur le même pied d'égalité. Pour eux, l'intérêt, et c'est ce qui prévaut tout le temps normalement, l'intérêt de l'enfant est supérieur à, aux demandes des futurs parents.
Oui, mais ce qui est normal.
Ce qui est complètement normal. Et pour eux, leur politique, c'était, nous, ce qu'on cherche, c'est que c'est pas des parents pour un enfant. Nous, ce qu'on cherche, c'est qu'il y a un enfant qui a besoin de parents, et cet enfant-là correspond à votre démarche, à votre projet. C'est dans l'autre sens.
C'est complètement dans l'autre sens. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué ensemble, au moment de la validation de votre agrément, on a dû vous demander de faire un choix, entre guillemets, dans le type, alors je pense que le mot est très mauvais, mais le type d'enfant que vous étiez pour adopter, et donc de choisir des tranches d'âge, des spécificités, si les enfants avaient des spécificités.
C'est tout à fait ça, c'est ce qu'on appelle la notice dans le parcours d'adoption. Effectivement, ils sont obligés de nous poser la question parce que, comme tout parent, et ça, adoption ou pas, forcément on projette des choses sur cet enfant. Et du coup, on projette quelque chose sur un enfant qu'on n'a pas encore, et du coup, on l'imagine comme ci, comme ça. Donc, ils sont obligés de nous demander, c'est sûr, le terme est pas bon, mais... vous voulez en fait, mais c'est pas exactement ça. Et donc effectivement, nous on donne des critères. C'est pas des critères de choix, c'est plutôt des critères
d'idéal.
Quel enfant sera en capacité de pouvoir s'occuper en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on est prêt à accueillir un enfant qui aura une pathologie bien particulière. Est-ce qu'on se sent en capacité de pouvoir accueillir un enfant qui a un handicap léger ou lourd? Est-ce qu'on sera en capacité d'accepter d'avoir un enfant noir si on est une famille blanche? Parce que c'est pas forcément évident. Est-ce qu'on sera en capacité d'avoir un enfant plus grand que 3 ans? Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut construire avec l'assistante sociale, et c'est ce qu'on appelle la notice. Et c'est là qu'on met nos critères un petit peu idéal.
Et encore une fois, l'idée, c'est d'aller dans le sens, enfin dans l'intérêt de l'enfant, parce qu'effectivement, même si on aime nos enfants, si quelqu'un ne se projette pas avec un enfant, par exemple racisé quand la famille ne l'est pas, ça peut créer des soucis pour l'enfant.
Oui, tout à fait. Si pour un enfant qui est d'une certaine ethnie ne parvient pas à surmonter ça dans une famille d'une autre ethnie, pas forcément de la faute des parents adoptants, mais ça peut être aussi la famille.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a la famille aussi autour, il n'y a pas que la famille nucléaire.
Et oui, la famille proche ou éloignée projette beaucoup sur cet enfant. Nos familles respectives, AJB et moi, ont beaucoup projeté aussi sur cet enfant. Donc, il fallait que tout le monde soit bien au clair avec ces projections-là. Et donc la notice, en fait, elle est là pour dire au conseil de famille, nous on est tel genre de famille, on voudrait être tel parent, et on se projette avec un certain type d'enfant. Voilà. Donc effectivement, nous on a dû établir une espèce de liste de critères. Il faut quand même être assez précis et ne pas... Il faut être très honnête en fait. Il faut pas se dire, je vais tout accepter parce que mon désir d'enfant est plus fort. Non, il faut vraiment partir du postulat que on va être parent et que l'éducation d'un enfant, c'est quelque chose de compliqué, qui peut parfois être difficile, et que si on se retrouve face à une complexité qui, au départ, on avait accepté, puis au final, on n'arrive pas à la surmonter, ça peut être très traumatisant, et pour les parents, et surtout pour l'enfant.
Ouais, tout à fait. C'est évident en soi, mais après, c'est vrai qu'on peut se sentir en capacité d'eux à un instant T, parce que le désir d'enfant est clairement le désir d'enfant, on ne le maîtrise pas, on ne le contrôle pas, il est puissant. Et en fait, il faut vraiment être hyper honnête avec soi-même, parce qu'on peut se mettre, nous, et surtout mettre l'enfant en difficulté.
Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai un exemple tout prêt pour ça. Moi, je suis d'une profession médico-sociale. Voilà, je travaille avec des personnes en situation de handicap. Et au tout départ, je me suis dit, avoir un enfant qui présente un handicap, pour moi, ce sera pas difficile parce que c'est mon métier. Et le problème, c'est que être papa ou être maman,
c'est pas un métier.
C'est pas être au boulot. Et moi, et tout ce processus, tous ces rendez-vous de construction de projet aident à ça, aident à faire mûrir le projet. Parce que au départ, je suis parti du postulat que je pourrais m'occuper d'un enfant handicapé, mais au final, est-ce que je serais légitime de m'occuper d'un enfant en situation de handicap parce que je suis dans le métier? Je suis pas sûr de ça. Peut-être que quand j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai pas forcément envie d'être au travail. Ça peut être très trivial comme façon de dire, mais c'est ça, parce qu'on projette beaucoup sur nos enfants et on n'a pas envie qu'il leur arrive des malheurs.
Oui, complètement.
Et le fait de sortir de ça, ça permettait aussi de faire mûrir encore plus le projet. Donc c'est là qu'on a dit, nous on pourra pas être en capacité, et c'est douloureux de le dire, mais il faut le dire, on sera pas en capacité d'accueillir un enfant avec une spécificité ou un handicap lourd.
Oui.
Du coup, ça ferme une porte, mais on est plus honnête avec soi-même.
Ça ferme une porte, mais ça te garantit une parentalité qui ressemble
exactement
à ton projet.
C'est exactement ça. On reste honnête avec soi-même.
Voilà, exactement. Tu me parlais tout à l'heure justement de ta famille, du fait que nos familles se projettent évidemment dans l'adoption de nos enfants. Vous avez communiqué avec vos familles de suite et complètement sur le sujet, sur le projet, ou
non,
vous avez attendu?
On a toujours considéré le fait qu'il fallait les inclure, alors d'une manière plus ou moins éloignée, mais voilà, cette démarche, elle était personnelle, c'était notre projet de couple, notre projet de famille, mais nos familles respectives, allaient forcément faire partie à un moment donné, parce que maintenant, Gaëlle a des grands-parents, Gaëlle a des cousins, des cousines, donc voilà, ils ont toujours fait partie du projet. Un peu éloigné, mais ils en ont quand même fait partie.
Et ils ont été soutenants, enfin je suppose que oui, mais bon, je pose quand même la question.
Oui, non, si, ils ont été très soutenants. Nos amis aussi, on a été très très soutenus par nos amis. Ils demandaient souvent des nouvelles, alors où ça en est, vous en êtes où, est-ce que vous avez plus de nouvelles? À tel point que des fois, sur la fin de la période d'adoption, c'était même limite oppressant.
Oui, angoissant.
Ouais, angoissant, parce que à chaque fois qu'on les voyait, alors, est-ce que vous avez des nouvelles? Vous en savez plus? À un moment donné, on a dû mettre le holà. On a dû leur dire, attendez, stop. Pour l'instant, il n'y a rien. Déjà, pour nous, c'est compliqué de se dire que pour l'instant, il n'y a rien. Mais si en plus, vous rajoutez ça tout le temps, voilà, ça va être encore plus compliqué. Donc, arrêtez de nous en parler. Le jour où ça arrivera, vous serez les premiers au courant. Du coup, ils ont arrêté de nous en parler. Ils nous ont laissé un peu plus vivre ça entre nous. Parce que ça peut être compliqué aussi.
Oui, ça peut être compliqué, mais en même temps, tu vois, c'est toujours, ils veulent toujours bien faire, prendre des nouvelles, s'inquiéter, s'intéresser. Enfin, tu vois, c'est pas facile, hein, comme position.
Mais oui, et puis en plus, ils sont pas dans cette démarche. C'est-à-dire que nous, on a vécu des sentiments que eux ne vivront peut-être jamais.
Oui, complètement.
Alors, en plus, c'est particulier parce que nous, nos familles sont, enfin, en tout cas, la famille de JB est un peu particulière parce qu'il se trouve que JB est le seul enfant naturel de ses parents.
D'accord.
Quand il est né, il y a eu un problème à l'accouchement. Et donc, il a un frère et une sœur qui sont adoptés.
Ah oui, donc le process est déjà connu
donc,
de ce côté-là.
De ce côté-là, le process est déjà connu. Donc, du côté de la famille de JB, il y a eu très très vite, ils se sont désengagés, enfin, c'est-à-dire qu'ils nous ont laissé vivre ça pleinement parce qu'ils savaient par quoi on passait.
Ouais.
Ils ont vécu ça aussi. Alors bon, c'était il y a 30 ans, hein, donc du coup, c'était pas les mêmes.
Non, c'était différent.
C'était différent.
C'était aussi un sacré parcours.
Mais c'était un parcours tout aussi long, tout aussi atypique, tout aussi compliqué d'un point de vue émotionnel. Mais du coup, on avait aussi ce levier-là à se dire, d'un côté, indirectement, on connaît un petit peu les attentes de l'adoption et surtout la longueur que ça peut prendre et ce qu'on peut ressentir dans toute cette longueur-là. Donc, la famille et les amis ont vraiment été très, très aidants là-dessus pour nous aider à garder le cap.
Ouais, ça, c'est hyper important, surtout dans des démarches comme ça, d'être très, très bien entouré, de ne pas s'isoler et se retrouver seul pour vivre tout ça.
Tout à fait.
Et alors, du coup, on en revient à cette fameuse dernière année, si je ne me trompe pas, durant laquelle vous avez eu des rendez-vous assez fréquents.
Oui.
Est-ce que vous sentiez que vous touchiez quelque chose, ou pour vous c'était toujours très abstrait?
Alors, c'est très rigolo comme fin d'année. On arrive sur l'année 2018 parce qu'il y a eu tout un enchaînement d'événements qui ont fait que je pense qu'on n'aurait pas pu vivre ça autrement. Enfin, quand j'y repense, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Parce que la fin d'année a été, la fin d'année 2018 et le début 2019 a été extrêmement intense de manière émotionnelle. C'est-à-dire que, donc, l'année 2018 a été jalonnée de plein de rendez-vous. Et le dernier rendez-vous en 2018, c'était en juillet.
D'accord.
Et puis après, plus rien. On avait un contact par mail régulier avec notre assistante sociale où on lui demandait régulièrement des nouvelles, savoir où c'en était. À chaque fois, elle nous disait, bah, écoutez, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de visibilité sur les bébés à naître. Pour l'instant, je sais pas. Gardez espoir, mais pour l'instant, j'ai rien. Je reviendrai vers vous si j'ai quelque chose. Et en fin d'année 2018, alors que ça faisait presque 6 mois qu'on n'avait pas plus de nouvelles que ça, on reçoit un coup de téléphone de l'assistante sociale qui nous dit, qui nous demande comment on va et puis qui nous dit, est-ce que ça va? Est-ce que la fin d'année se passe bien? On lui dit, bah ouais, tout se passe bien. Puis on sentait qu'il y avait quelque chose qui tiltait parce qu'elle nous a dit, écoutez, là vous en êtes à un processus où je pense que ce serait bien que vous commenciez à prévenir votre employeur. Que potentiellement, peut-être, rapidement, vous seriez amené à être apparenté. Et du coup, dans ces cas-là, ça va très, très vite. Donc, il faut qu'ils puissent anticiper ça. On se dit, OK.
Ah oui, ça commence à devenir très concret quand même.
Ouais, mais ça a toujours été un peu comme ça. Donc, du coup, on se dit, bon, OK. Donc, on en parle autour de nous. Tous nos amis, notre famille, on nous dit, ça y est, il y a quelque chose qui se prépare. Mais bon, nous, on y croit sans y croire parce que, voilà, ça fait 4 ans qu'on est dans les démarches. Bon, tu vois, on veut être prudent. Mmh. Et il se trouve que en même temps, en fait, on déménageait. Voilà, on changeait d'appartement. Et donc, on était en plein dans les cartons. Et puis, en fin d'année, mi-décembre, notre assistance sociale nous relance en nous disant, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous après les fêtes de fin d'année pour qu'on puisse se voir? On lui dit, OK, on est en plein déménagement, mais bon, on arrivera à trouver un moment. Et donc, on prend rendez-vous pour janvier 2019. Mmh. Et alors, je vais être très précis sur les dates parce que ça a une grande importance. Donc, on avait rendez-vous le 21 janvier 2019. Il se trouve qu'on déménageait le week-end du 19-20, la veille et l'avant-veille. Oui. Donc, on passe le week-end... en sachant qu'il y avait ce rendez-vous, mais en disant, bah, de toute façon, c'est encore un rendez-vous bilan pour faire encore une fois le point. On commençait à être un peu lassés de ces rendez-vous.
Oui, oui,
mais,
tu m'étonnes.
Voilà, pour faire encore le point, bon, OK. Bon, de toute façon, on n'a pas le temps, ce week-end, on déménage. Donc, on déménage, voilà. Et donc, le 21 janvier, donc on a rendez-vous à 9h du matin et on y va en se disant, bon, on essaye de faire assez vite parce que l'après-midi, on a des ouvriers qui viennent au nouvel appartement parce qu'on a une fenêtre à changer, un tuyau à remplacer. Enfin bon, on n'a pas trop de temps, on a une journée un peu compliquée. On était loin de penser qu'elle allait être aussi compliquée que ça. Donc, on va au rendez-vous. L'assistante sociale nous reçoit, elle nous demande de nos nouvelles, elle savait qu'on déménageait, donc on lui dit, bah ouais, ça se passe bien, on a encore toute une pièce, la chambre d'amis qui est pleine de cartons, et il faut qu'on débarrasse les cartons. Et là, elle nous regarde et elle nous fait, bah écoutez, va falloir décartonner un peu plus vite que ça. Donc là, gros silence, on la regarde, comme ça.
Vous avez le doute là, non?
Là, on commence, ouais, on commence à se dire, il y a quelque chose qui se prépare. Et là, elle nous annonce la phrase, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Elle nous dit, le conseil de famille vous a choisi pour devenir parent.
Waouh.
Et là, toute la fatigue du déménagement te tombe sur les épaules.
C'est clair, au niveau émotionnel.
Ah ouais,
wow.
Non, mais là, c'est l'ascenseur émotionnel. Donc, gros blanc, gros silence, on la regarde interloquée. Là, elle va pour commencer une autre phrase. Et là, moi, je la regarde et je fais « Quoi ?» Il n'y a rien d'autre qui est sorti. Et donc là, elle se reprend. Elle me dit « Elle nous dit « Le conseil de famille s'est réuni mi-janvier et vous allez être apparenté à un enfant. » Et donc là, en plus, JB, imperturbable à côté, très professionnel, qui fait « OK ». genre il aurait rajouté cordialement à la fin de la phrase, c'était pareil. Et là, moi, je commence à avoir les larmes qui montent. Et là, en fait, l'assistante sociale s'arrête et elle nous dit « Écoutez, on peut pas continuer. Là, vous avez besoin de prendre du temps, là. Vous avez besoin de digérer la nouvelle. Donc, vous allez sortir, vous allez vous promener, vous allez réfléchir et puis vous revenez quand vous êtes prêt. » Donc, on part, moi en larmes. Il y avait un parc à côté, on commence à faire le tour du parc. Je pense qu'on a dû le faire à peu près 20 fois, le tour du parc. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Enfin, c'est pas possible.
Ça nous arrive enfin.
Ouais, ça nous arrive enfin, mais là, on savait rien. Hein. On savait pas l'âge. Ouais. On savait pas si c'était un garçon ou une fille. On ne savait rien. On savait juste que le conseil de famille nous avait choisi. Et donc, on se dit, mais comment on va faire? On vient de déménager. Finalement, le bureau ne sera jamais un bureau. Ça va devenir une chambre d'enfant direct. On n'a rien, on n'a pas de lit, on n'a pas de couche. Donc du coup, au bout d'un moment, 20 minutes s'écoulent, et moi, au bout d'un moment, je regarde JB, je lui fais « Non, mais moi, il faut que je sache. Il faut en savoir plus. » Et donc, on y retourne. On y retourne, la dame de l'accueil nous voit revenir, elle pensait pas qu'on allait revenir aussi vite. Donc elle nous accompagne au bureau de l'assistance sociale qui était au téléphone à ce moment-là, qui, pareil, ne s'attendait pas à nous voir revenir aussi vite. Et donc du coup, elle termine son coup de téléphone et puis elle nous reçoit. Elle nous dit bon, ben alors, elle me dit bah écoutez, on lui dit bah écoutez, nous on veut en savoir plus. Et donc c'est là qu'elle sort un dossier. Elle ouvre le dossier et là dedans il y a toute l'histoire de Gaëlle depuis sa naissance. Alors il se trouve qu'on a eu de la chance parce que l'assistante sociale qui a suivi notre dossier était aussi l'assistante sociale qui a fait le recueil de Gaëlle.
D'accord.
C'est
pas, oui, donc en plus,
ouais, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément une assistante sociale qui s'occupe d'un couple qui va forcément recueillir un enfant pour ce couple-là. Là, c'était la chance, c'était que elle, en fait, elle connaissait Gaël depuis la minute où il est né.
Oui, c'est ça.
Donc les 2 mois et demi de vie qu'on n'a pas vécu, ben elle l'a vécu par procuration pour nous. Donc elle avait plein d'informations à nous donner. Et donc là, en fait, elle lit le dossier, elle nous donne toutes les informations qu'elle a en sa possession, hein, qui sont pas énormes. Hein. Et nous dit voilà que notre fils est né en novembre 2018, d'où le petit prévenez vos employeurs à la fin de l'année, parce qu'elle savait que potentiellement on était les suivants sur la liste. Et du coup, voilà, elle nous dit voilà, c'est un petit garçon qui est né. En novembre, qui a été donc abandonné. J'aime pas ce mot, mais c'est un peu le terme. C'est un accouchement dans le secret, donc c'est un abandon de toute façon. Et voilà, elle donne quelques petites informations, ce qu'elle a pu glaner auprès de la mère biologique. Et puis c'est tout. Elle nous laisse avec ça en disant, ben voilà, vous avez 48 heures pour me donner une réponse si. Avec toutes les informations que je viens vous donner, et il y a aussi des informations médicales, hein, bien évidemment. Oui. Avec toutes ces informations, vous avez 48 heures pour me dire si vous souhaitez être les parents de ce petit garçon. Voilà.
Mais tu dois avoir envie de répondre tout de suite.
Alors oui, bien évidemment que tu as envie de répondre tout de suite, mais le délai de 48 heures est quand même primordial parce que ça te permet de prendre un peu de recul, un tout petit peu, hein. Parce que quand on est rentré à la maison en se disant que cet après-midi, on a les ouvriers qui arrivent, on va pas du tout être dans... Enfin bon, bref, on était dans un état émotionnel intense. Et donc, il fallait déjà qu'on se remette de ça. Et puis qu'on se dise, OK, si on accepte, comment on se la joue, quoi? Parce que ça veut dire prévenir nos employeurs que la semaine prochaine, on n'est plus là, que prévenir nos parents, que... En une semaine, ils vont devenir grands-parents d'un coup. Voilà, c'est donc en fait, on a pris la journée pour mettre au courant notre famille, en fait, parce que de toute façon, c'est clair que dans notre tête, du moment où on a franchi la porte du service d'adoption, c'était fait. Notre réponse, elle était là, quoi. C'était un grand oui, sauf que on voulait prendre le délai de 48 heures. Mais pour nous, c'était fait. Donc, du coup, on a appelé nos parents. Alors, je te passe les détails, mais bien évidemment que ça a été un summum de joie de tous les côtés. le fait d'annoncer « je vais être papa » de prononcer ces mots pour la première fois, et que ce soit vrai, c'était quelque chose d'indescriptible au niveau émotionnel. Et je souhaite à tout parent, hein, papa ou maman, de vivre ce qu'on a vécu, parce que c'est du bonheur en barre, et c'est énorme comme sentiment. Et donc voilà, donc on prend ces 48 heures de réflexion et puis on lui envoie un mail. Alors je t'avouerai qu'on n'a pas attendu 48 heures, on a dû attendre 36 heures pour lui dire que voilà, on consentait à l'adoption de Gaël. Donc à l'époque, il ne s'appelait pas Gaël encore.
Oui.
Puisqu'il avait un autre prénom.
Et j'allais t'en parler.
Voilà. Et donc on consentait à son adoption et que on attendait la suite des événements. Voilà.
Et alors du coup, comment ça se passe?
Alors, du coup, à ce moment-là, en fait, elle nous rappelle, elle nous dit, je vais vous envoyer par mail tout un planning. C'est-à-dire que là, vous avez une semaine pour commencer déjà à vous préparer, quitter vos travails respectifs de manière correcte, c'est-à-dire prévenir les employeurs, mettre en place le congé d'adoption auprès de vos employeurs, éventuellement commencer à acheter ce qu'il faut pour accueillir un enfant.
Oui, évidemment.
Voilà. Donc du coup, toute cette semaine-là, on a vécu... Alors, la semaine qui a suivi l'annonce a été jalonnée de gros coups d'émotions extrêmement positives et très négatives. C'est-à-dire qu'on a fait le yo-yo au niveau émotionnel. On était très, 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 très heureux. Donc, quand on arrivait sur nos lieux de travail, je l'ai annoncé à mes collègues. Il y en avait certains qui étaient même pas au courant que j'étais en démarche d'adoption, parce que c'était pas quelque chose sur lequel j'avais communiqué à tout le monde. J'ai pris rendez-vous avec mon cadre à ce moment-là pour lui dire, voilà, ça y est. Donc, je l'avais mise au courant déjà. Donc, du coup, on a regardé un petit peu comment on pouvait fonctionner au niveau de la législation, ce qu'on pouvait prendre en termes de congés. Voilà. Pour la petite histoire, c'est 10 semaines, ce qui correspond aux 10 semaines du congé postnatal.
Le congé maternité.
Voilà, coupé en deux ou pas, enfin ça dépend des conventions, mais en tout cas nous on avait fait le choix de le couper en deux, 5 semaines chacun. Moi du coup, j'avais pris les 11 jours de paternité, puisqu'à l'époque il y avait 11 jours, maintenant c'est passé à 28. Mais à l'époque c'était 11, plus une semaine de vacances que je posais. Donc en gros, moi ça me faisait deux mois pleins avec notre fils. Et pour JB, lui, il avait la possibilité de prendre 3 mois en plus. Donc lui, ça lui faisait 6 mois de présence. En gros, ça faisait 6 mois de présence juste pour Gaël.
Oui. C'est pas quelque chose que le conseil départemental ou les assistantes sociales vous avaient demandé de prévoir de base?
Non, pas forcément. Enfin, ils nous avaient demandé de prévenir l'employeur, mais pas forcément de prévoir de comment on allait le partager. On a regardé sur Internet, sur le site de la CAF, par exemple, qui est très bien fait, qui montre comment les différents types de congés, le congé maternité et puis le congé d'adoption, sont deux types de congés différents. Donc du coup, c'est assez bien expliqué et c'est comme ça qu'on a pu, avec un crayon et une feuille, se dire, moi je vais prendre de telle date à telle date, ça c'est le congé paternité, ça c'est les 3 jours obligatoires, ça c'est ma semaine de congé classique et ça c'est la moitié du congé d'adoption.
Oui, d'accord.
Voilà. Et j'ai fait la proposition à mon employeur et il m'a dit, ok, c'est bon. Donc du coup, on fait l'annonce pendant la semaine et c'est là où je disais qu'on passe par des états émotionnels divergents, parce que il faut quand même continuer à bosser.
Ce qui est évidemment. Ce qui est dur.
Tout en ayant en tête cet enfant qu'on n'a toujours pas rencontré. On n'a pas de photo, on n'a pas de visuel.
Oui.
On sait juste qu'il a beaucoup de cheveux à ce moment-là et qu'il a une tache de naissance sur les fesses. C'est tout.
D'accord.
On n'en sait pas plus. Et qu'il est très, très curieux, qu'il regarde partout. Enfin, voilà. Et on rentre le soir du travail et puis on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver? Mais est-ce qu'on va arriver à être prêt à temps? Puis après, c'est, mais est-ce qu'il va pas nous rejeter? Est-ce que nous, on va pas avoir un problème quand on va le voir? Est-ce qu'il va pas y avoir une sorte de rejet? Toutes ces questions, en fait, où des couples qui attendent un enfant de manière classique, ils ont 9 mois pour se poser la question.
Pour se préparer, ouais.
Nous, il faut qu'on le fasse en 10 jours.
Oui, c'est fou.
Du coup, l'émotion, elle a pas le temps de s'installer. Elle part, elle revient. Et donc, on a passé toute une semaine extrêmement compliquée émotionnellement. Mmh. Arrive le week-end où, ça y est, on part en congé paternité d'adoption. Moi, je passe le week-end dans les magasins avec ma mère où on dépense une fortune, mais du coup, à la fin du week-end, Gaël, il a une chambre complète.
Oui, voilà. Vous êtes équipé.
Ouais, toutes mes amies qui ont eu des enfants avant, elles m'amènent des cabas remplis de fringues. Je crois que j'ai jamais eu besoin d'acheter une fringue à Gaël pendant 2 ans. Alors pour le coup, tout le monde a été très réactif, hein. C'était génial. Et en fait, on arrive à ce fameux premier jour d'apparentement où en fait, on est prêt. Mais on est complètement prêt. La chambre est prête, on a enlevé tous les cartons, on a installé tous les meubles, tout est prêt. Et donc du coup, nous, on est sereins dans nos têtes parce que du coup, tout ça, c'est derrière nous. Et maintenant, on va pouvoir se consacrer pleinement à la période d'apparentement.
Oui,
qui débute à ce moment-là.
Et du coup, quand est-ce que vous rencontrez Gaël ?
Et donc, on rencontre en fait Gaël une semaine après l'annonce. Donc, on a rendez-vous à la Pouponnière, donc à l'Institut départemental de l'enfant et de la famille du Rhône. Donc, il y a notre assistante sociale qui nous reçoit d'abord dans un rendez-vous où on est juste tous les trois, où elle veut nous prévenir un petit peu de comment ça va se passer. Voilà, comment ça va se dérouler, à quel moment on va rencontrer Gaël et comment l'apparentement va se faire. J'y reviendrai. Elle nous met aussi en garde sur le fait que ben s'il y a des sentiments ou des émotions qui arrivent, il faut pas les réfréner. C'est-à-dire que là, on va accueillir un enfant qu'on ne connaît pas. Cet enfant ne nous connaît pas non plus. Peut-être que on va le trouver moche. Peut-être que il va y avoir une incompréhension. Peut-être que lui-même va se mettre à pleurer. Il va se mettre à hurler. Enfin, voilà. Elle nous prépare à plein de types de comportements pour nous dire voilà. Et tous ces comportements sont complètement normaux. Il faut pas vous freiner.
Ok. Oui, elle vous rassure.
Voilà, elle nous rassure. Et donc en fait, donc on se donne après, on va rejoindre. L'auxiliaire puéricultrice référente de Gaël, qui s'est occupée de Gaël depuis sa naissance, et la psychologue de l'établissement. On se retrouve en fait dans un espèce d'appartement, parce que donc à l'IDEF de Lyon, ils ont des appartements faits à louer à l'apparentement, c'est-à-dire un vrai appartement, une pièce de vie, une cuisine, une chambre, une salle de bain. Et c'est là en fait qu'on va rencontrer Gaël pendant une semaine, tous les jours. C'est-à-dire que lui, il est à la Pouponnière, un bâtiment qui est à l'extérieur. Et tous les jours, on nous l'amène. Tous les matins, on nous l'amène. Et tous les soirs, ils viennent le récupérer. Et ils passent la nuit à la Pouponnière.
D'accord.
Et donc, toute la journée, on reste dans cet appartement. Donc, la première rencontre avec Gaël se fait dans cet appartement. On discute un petit peu avec l'auxiliaire puéricultrice et la psychologue. Et puis, au bout d'un moment, elles sentent que allez, c'est bon, là, on a bien discuté. Mais nous, on veut voir notre fils. On veut le voir. Donc du coup, l'auxiliaire puéricultrice part chercher Gaël. Et là, c'est très long. Ça dure un quart d'heure, hein. Mais c'est le quart d'heure le plus long parce que du coup, on se regarde dans le blanc des yeux. Elle nous dit allez, ça va aller. Nous, on est tout fébrile, voilà. Et là, pareil, c'est une image que je me souviendrai. Je vois par la fenêtre, je vois la poussette arriver, poussée par l'auxiliaire puéricultrice. La poussette rentre dans l'appartement. On n'a toujours pas vu Gaël. Et là, elle plonge ses bras dans la poussette. Et là, elle ressort une toute petite chose, toute rose, avec des cheveux. Mais alors, des cheveux, mais une gouffa sur la tête, de cheveux noirs. Et elle le prend dans ses bras. Elle le tourne de façon à nous le montrer. Nous, pendant ce temps-là, on s'est levé. Et là, le contact se fait, le contact visuel se fait, et là, il pose ses grands yeux noirs sur nous, et je sais pas, il s'est passé un truc.
Alors. Et c'est votre fils.
Je sais pas, alors, je suis pas objectif du tout, parce que c'est mon cœur de papa qui parle, mais il s'est vraiment passé un coup de foudre. Un vrai coup de foudre. Il a passé son regard de JB à moi, de manière complètement alternative, et j'ai eu l'impression, et ça c'est mon impression de père, et je m'en fiche, c'est la mienne, je pense que on lui en avait parlé, hein, l'auxiliaire puéricultrice l'avait préparé à ce rendez-vous, et il lui avait dit, tu vas rencontrer tes papas. Et là, je pense que il s'est dit, ok, ça y est, c'est eux. Là, ce sont mes parents, je les regarde tour à tour, et ok, salut, Enchanté. Et moi, je suis resté, parce que je peux pas parler pour JB, on en a parlé entre nous, mais c'est très, très personnel comme sentiment. Moi, je suis resté, mais subjugué devant tant de beauté.
Ah, tu m'étonnes.
Voilà, j'ai le coup de foudre et là, ça y est, c'est parti. Là, je me suis senti papa, mais pleinement. Et tous mes doutes, toutes mes peurs, toutes mes angoisses se sont évaporées d'un coup. Là, je me suis dit, ça y est, quoi. C'est lui. Ça ne pouvait être que lui. J'ai attendu 4 ans. On a attendu 4 ans. On a même attendu une vie. C'est lui. C'est forcément lui. Voilà. C'était magique.
Oh, ça devait être magique.
Ouais. C'était magique, ouais. Ouais, ouais.
Ça devait être magique, effectivement. Et à ce moment-là, il commence à vous laisser un petit peu. Comment ça se passe pour vous?
Alors,
la semaine?
Pour l'apparentement, en fait, donc la première journée, c'était juste un après-midi où l'auxiliaire puéricultrice est là, l'assistante sociale, enfin tout le monde reste. Ça dure que 2 heures parce que on veut pas non plus trop charger émotionnellement l'enfant. Donc c'est un moment qui dure que 2 heures. Mais pendant ces 2 heures, on a eu le temps de le prendre chacun dans nos bras. De faire des photos, plein de photos, de lui annoncer qu'il allait s'appeler Gaël, parce que c'est important pour nous de lui donner de lui dire qu'on avait choisi ce prénom pour lui depuis longtemps, et que même s'il avait eu un prénom à la naissance, qu'on ne niait pas, parce qu'il fait partie de son histoire, mais il nous paraissait important de lui donner un prénom qu'on avait choisi nous.
Oui.
Donc, cet après-midi-là a aussi servi à lui annoncer qu'il allait s'appeler Gaël. Voilà. Et donc, l'après-midi se termine. Gaël repart sur son groupe dans la pouponnière avec l'auxiliaire puéricultrice. Et après, à partir de ce moment-là, donc l'assistante sociale s'efface, la psychologue aussi. Tous les jours, en fait, à 9h, on a rendez-vous à 9h à l'appartement. On doit appeler le groupe sur lequel vit Gaël pour lui dire, pour leur dire, voilà, on est là, on est les parents de Gaël. Ça fait très bizarre de dire ça à chaque fois au début. Bonjour, c'est on est les parents de Gaël. Ah oui, bonjour. En plus, deux garçons, donc une bienveillance énorme. Il y a eu quelque chose de... Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais pendant tout le processus de la démarche, à aucun moment, il y a eu un jugement de qui que ce soit. Il y a toujours eu une énorme bienveillance.
Superbe.
Ouais, qu'on soit deux papas, ça n'avait rien à voir... Enfin. C'était d'une extrême gentillesse et d'une extrême bienveillance. À aucun moment, il y a eu un jugement porté parce qu'on était deux hommes.
D'accord.
Donc, ça, c'était génial. Et du coup, voilà, on appelle le groupe. On dit, voilà, on est les parents de Gaël. Il vient de se réveiller. On finit le biberon et puis il arrive. Et tous les jours, de 9h à 17h. Donc, au départ, l'auxiliaire puéricultrice est là. Elle nous aide à préparer le biberon, à lui donner le biberon, à donner le bain, à le prendre, le changer, etc. Puis petit à petit, elle s'efface. Elle s'en va. Elle dit bon bah je vous laisse. Si vous avez besoin, vous m'appelez. Alors très très rapidement, elle s'est effacée. Je crois au bout du deuxième jour, elle a dit je crois que j'ai rien à vous apprendre. Vous vous débrouillez comme des chefs. Allez-y, vous m'appelez uniquement si vous avez un problème. Voilà. Et donc tout ça, ça dure une semaine. Une semaine où tous les jours on y va, de 9h à 17h, où on prend Gaël. On a le droit de sortir, on a le droit de se déplacer dans le parc de l'institut. Hein. Bon, on n'a pas le droit de sortir en ville, hein, mais au moins dans le parc. Et sur la fin de l'apparentement, donc la période d'apparentement, on a le droit à une journée à la maison.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a un matin où c'est l'auxiliaire puéricultrice et l'assistante sociale qui vont chercher Gaël à l'institut et qu'il ramène chez nous.
D'accord.
Donc il fait une journée à la maison. Donc ça aussi c'est très symbolique parce que voilà, on lui montre sa chambre. En plus on était très fiers parce qu'on avait réussi à tout faire en 3 jours. Et donc du coup on lui montre sa chambre. Donc il a fait sa première sieste dans son lit. Il a pris son premier repas ici. Voilà. Et l'auxiliaire puéricultrice et l'assistante sociale viennent le chercher le soir. Et le lendemain, c'est nous qui y allons, avec le siège auto, on récupère Gaël et on s'en va.
Et vous rentrez.
Et on rentre à la maison, et ça y est, l'apparentement est terminé.
Et là, vous commencez votre nouvelle vie.
Et là, on commence notre nouvelle vie à trois. Alors, pendant 6 mois, il y a un rendez-vous par mois avec l'assistante sociale, qui vient une fois par mois pour voir si tout se passe bien pendant 6 mois. Il y a aussi la dernière visite de l'auxiliaire puéricultrice qui vient dire au revoir à Gaëlle. Ça aussi, c'est très symbolique parce que c'était la première personne qui s'est occupée de lui. Et bah donc, c'est important pour lui et pour elle de se dire au revoir.
Bien sûr.
Il se trouve que la pouponnière donc du Rhône, en tout cas pour le Rhône, a pour tradition de faire un livret, un album de vie. C'est-à-dire qu'en fait, on a toute l'histoire de Gaëlle, de sa naissance à son arrivée chez nous, avec plein de photos, de témoignages, de d'écriture de l'auxiliaire puéricultrice qui décrit chaque instant de vie. Aujourd'hui, tu as pris ton premier bain, tu as pris ton premier biberon. Enfin, voilà, plein de choses comme ça.
Oui, c'est hyper important.
C'est très important et ça, c'est quelque chose qu'on garde précieusement parce que ça va nous servir plus tard à raconter l'histoire de Gaëlle quand il sera en âge de le demander et de pouvoir comprendre d'où il vient. Et donc voilà, donc elle dit au revoir à Gaëlle. C'est très symbolique, c'est très émouvant aussi. Après, pendant 6 mois, il y a la visite de l'assistante sociale. Elle rend un rapport sur ces 6 mois, qui bien évidemment est favorable. Et après, il y a le consentement à l'adoption, où on a rendez-vous, tous les trois, JB, Gaëlle et moi, au conseil de famille, une espèce de bilan en disant, voilà, on vous a confié un enfant il y a 6 mois, où est-ce que vous en êtes? Comment vous voyez l'avenir? Donc, il faut préparer une petite lettre, un petit texte, pour dire que voilà, qu'on sera tel genre de parents et que, enfin, voilà, c'est très personnel, donc on peut pas vraiment en dire grand chose, mais voilà, faut se jeter dans.
C'est évidemment propre à chacun.
Voilà, c'est propre à chacun. Et puis, à l'issue de ça, ben, on reçoit un courrier qui dit, ben, voilà, on consent à l'adoption de Gaëlle, cette fois, et c'est plus son premier prénom qui est cité, c'est son prénom véritable. Et donc, c'est ce courrier qu'on doit envoyer au tribunal et qui après passe en commission et qui, du coup, nous rend un jugement d'adoption plénière. Et c'est avec ça qu'on peut l'inscrire enfin sur le livret de famille. Et ça y est, à partir de ce moment-là, on forme une famille officielle aux yeux de la loi et aux yeux de la société.
Et donc, vous êtes reconnue à peu près, tu te souviens, oui, je me doute que tu connais la date par cœur, mais vous êtes reconnue en tant que parent de Gaëlle depuis quand?
Alors, je vais revenir sur les dates. Du coup, en septembre 2019, on a eu le consentement à l'adoption. On a reçu le rendu d'adoption le 30 janvier 2020. Là est passée la crise du Covid.
Oui, évidemment.
Du coup, on n'a pas pu faire l'inscription au livret de famille tout de suite. Donc l'inscription au livret de famille a été faite une fois que le confinement a été levé, le premier confinement a été levé, donc en mai 2020.
D'accord. Donc mai 2020, la fin du parcours. De ce processus du parcours d'adoption.
La
qui
fin
a
du
donc
parcours.
Pris 6 ans.
Voilà, c'est ça. En tout et pour et tout, ça a pris 6 ans, ouais.
Ouais, c'est une très 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 belle histoire. J'aime beaucoup ces histoires d'adoption parce que c'est d'une intensité folle. Enfin, je trouve que c'est des très très beaux parcours.
Ouais, parce qu'on reçoit les émotions de plein fouet et je pense décuplées parce qu'on les vit dans un temps record. Ça prend très longtemps, mais une fois que c'est là, ça se fait en 6 mois et du coup c'est très intense.
Ouais, complètement. C'est l'impression qu'on en a en tout cas vu de l'extérieur et franchement on en prend aussi plein les oreilles juste en vous écoutant raconter cette histoire. Est-ce que je peux te poser une question évidemment qui va te paraître très indiscrète, je pense, mais à la vue de ce parcours là, j'ai bien envie de savoir si vous auriez envie de recommencer un parcours ou pas.
Alors, elle est légitime cette question parce que voilà, beaucoup de parents ne s'arrêtent pas à un seul enfant. Donc
certains si, mais effectivement
certains
peut-être
si,
pas.
Mais voilà. Nous, la question s'est posée effectivement une fois que Gaëlle a fêté son premier anniversaire, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on réenclenche quelque chose ou pas. Au vu du parcours qu'on a fait et au vu de la chance qu'on a eue, on n'a pas envie de retenter l'expérience, bien que on en ait eu très envie à un moment donné, mais on se dit voilà, on a eu cette chance là une fois et on a peur d'être déçu.
Oui.
Et
ce que je peux comprendre.
Voilà, on se dit qu'on a eu cette chance une fois et que on en aura peut-être pas une deuxième et on aurait aimé en avoir une deuxième, mais finalement, on se dit que si la décision, c'est nous qui la prenons, on n'aura aucun regret.
Oui, Complètement. Voilà. Si vous êtes en accord avec cette décision, vous allez bien le vivre.
Ouais, ça a été compliqué au début de faire le deuil de ça, mais maintenant on est complètement serein avec ça et on se dit que voilà, Gaël est là et c'est notre principale raison de vivre. Ça fait un peu seigneur comme phrase, mais c'est le cas.
Oui, mais c'est vrai.
Mais voilà, on a envie de vivre tous les trois dans ce cocon le plus longtemps possible, tout en sachant pertinemment que un jour Gaël aura envie de faire sa propre vie et ce sera le temps pour nous de se consacrer à notre vie à tous les deux une fois qu'on aura donné toutes les valeurs qu'on voudrait donner à Gaël et il fera sa vie et voilà. Nous on veut s'arrêter sur cette histoire là.
En tout cas, c'est une très très belle histoire. Encore une fois, enfin, je te le dis, hein, vraiment, moi, j'en prends plein les oreilles et au niveau émotion, enfin, je souris, je souris avec toi. J'ai envie de, j'ai les larmes qui montent avec toi. Enfin, c'est voilà, c'est une très très belle histoire et je te remercie vraiment beaucoup, Nathan, d'avoir bien voulu la partager pour donner confiance parce que c'est vraiment très important qu'on parle sur ce type d'accès à la parentalité, donc l'adoption, mais des différents parcours en fonction des régions puisque les parcours sont différents. Ouais. Et surtout, je pense que ça va vraiment encore plus donner d'espoir. Je commence à avoir donc plusieurs épisodes sur cet accès-là à la parentalité et je crois que si j'ai plusieurs épisodes, c'est parce que ça se fait de plus en plus facilement.
Oui, c'est important que de se dire que l'adoption nationale, elle est complètement possible avec, c'est sûr, beaucoup de courage, beaucoup d'espoir, mais elle est possible et moi après toutes ces périodes d'adoption, j'ai beaucoup été sur les forums de nouveaux parents, de familles homoparentales et maintenant que j'ai tout ce processus là derrière moi, je me sens légitime de dire aux futurs papas, parce que c'est beaucoup des futurs papas. Y a aussi quelques futures mamans qui passent par l'adoption, mais ça reste quand même assez rare. Mais les papas, voilà, viennent nous voir, nous famille adoptante, en disant, ben voilà, nous on veut se lancer, comment ça se passe? Et moi je les rassure en leur disant, c'est possible. Et il y a de plus en plus de cas où ça montre que c'est possible. Et bientôt, dans les cours d'école, il y aura de plus en plus de couples de papas, de couples de mamans, de couples de papa-maman. Enfin voilà, les familles seront tellement diverses et variées qu'au final, on verra plus la différence.
Oui, mais complètement. Complètement. Et on fera même plus la différence sur la façon dont on a conçu nos enfants. Tu vois
exactement
ce que je veux dire?
Exactement.
Ce sera
exactement
fluide.
Ouais, complètement.
En tout cas, je te remercie beaucoup, Nathan, pour cette histoire. Si tu es OK, je partagerai ton compte Instagram pour permettre le contact aussi aux couples qui ne passeraient pas forcément par des forums pour pouvoir avoir quelques réponses à des questions et très probablement des personnes qui sont dans le Rhône et qui viendront chercher un peu plus un peu plus de renseignements sur le département du Rhône.
Avec grand plaisir.
Merci Nathan, je te dis à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Selon la PGL, depuis le vote de la loi du mariage pour tous en 2013 et l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe, ce serait près de 150 couples et célibataires qui auraient pu accueillir un enfant né à l'étranger ou pupille d'État dans le cadre de l'adoption. Selon l'Observatoire national de la protection de l'enfance, au 31 décembre 2019, 884 pupilles d'État ont été confiées en vue de l'adoption. En 2017, on estime que la durée d'attente moyenne entre l'octroi d'un agrément d'adoption et le placement en vue de l'adoption d'un enfant est de 3 années. Cette durée varie de 4 mois en Guadeloupe à 8 ans en Vendée. On signale que cette durée s'abaisse à 1,9 ans pour les candidats acceptant les enfants présentant un problème de santé ou un handicap et s'élève à 4,1 ans pour les candidats souhaitant une fratrie et ou des enfants plus âgés. Si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut aider pour des personnes qui sont en parcours d'adoption ou en réflexion sur leur méthode d'accès à la parentalité, vous pouvez le partager. C'est aussi ce qui me permettra de faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez soutenir le podcast, le noter, ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou me laisser un petit commentaire. Là, c'est plutôt pour mon ego. Je vous retrouve sur le site Instagram du podcast @lesenfantsvontbienpodcast. Pour continuer la discussion ou en commencer de nouvelles, et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Des enfants vont bien.
Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.